Oh ben, il me reste que 3 lettres, mais je vois pas ce que je peux faire avec.
C'est quoi tes lettres?
J-A-T.
Je sais. Agité du local.
D'où nous écoutez-vous, chers auditeurs? J'ai envie de vous poser la question parce que j'entends parfois « la campagne c'est beau, mais ici il ne se passe rien ». Comme si dans le calme et la verdure des villages, on était contraint de rester chez soi ou de prendre la route si on veut rencontrer ou participer au projet du territoire. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce qu'avec mon invité d'aujourd'hui, on va vous montrer que nos territoires ruraux mettent en place de belles initiatives et donc que peut-être près de chez vous se trouvent des lieux porteurs de beaux projets dont vous n'avez pas encore connaissance. On va parler ensemble de tiers-lieux et de la journée du 30 septembre à Livrée-la-Touche qui propose une troisième édition de On se la joue collectif. Avec moi, Coralie Croissant à l'origine du tiers-lieu Touche à tout. Bonjour Coralie.
Bonjour.
On parlera de cet événement ensemble dans quelques instants et ensuite, c'est du côté d'Ernée qu'on ira, plus précisément au cinéma Le Majestic, puisque Pascal Plisson y était hier pour l'avant-première de son nouveau film We Have a Dream. Une rencontre organisée par Atmosphère 53 et on les en remercie évidemment. Mais pour commencer, vous en avez l'habitude, on fait un point sur les actualités locales. Au lycée Robert Buron à Laval, il manque 210 heures d'accompagnement à ESH pour cette rentrée, ce qui aura un impact conséquent sur les conditions d'études des élèves et sur le travail du personnel, nous communique CGT Éducation 53. Depuis de nombreuses années, le lycée accueille des élèves en situation de handicap et a su mettre en place une politique inclusive pour répondre au mieux aux besoins des élèves. Cet accompagnement est assuré par le personnel AESH, aujourd'hui indispensable. Le personnel soutenu par la CGT Éducation 53 exige des moyens à la hauteur des besoins au lycée Robert Buron et d'ailleurs pour toutes les écoles du territoire. Une demande d'audience a été adressée à la DSDEN afin d'exposer la problématique auprès des services départementaux. La soirée d'ouverture du carré à Château-Gontier, prévue ce vendredi 22 septembre, se réorganise à l'abri par prudence météo. La programmation est évidemment maintenue, mais le bal fou des années folles se déroulera au sein du Théâtre des Ursulines et non dans les extérieurs du cloître. Les habitants des Coëvrons devront payer une redevance sur les ordures ménagères calculée en fonction du nombre de dépôts et du nombre de personnes au foyer à compter du 1er janvier 2024. La grille tarifaire a été votée ce mardi en conseil communautaire. L'ouverture des tambours des conteneurs d'ordures ménagères se fera à l'aide d'un badge préalablement fourni par la communauté de communes. Le but de cette nouvelle redevance est de diminuer la quantité d'ordures ménagères et d'encourager le tri, d'après Régis Lefeuvre, élu en charge de la commission environnement. Et pour terminer, la lionne Lina a rejoint le refuge de l'Arche à Château-Gontier ce mardi. Elle tiendra compagnie à Safran, le lion, qui était seul depuis quelques mois. La lionne n'est pas le seul animal que vient d'accueillir le refuge de l'Arche puisque 2 Savannah et 2 Ouistiti ont été transférés depuis le refuge de l'Arche de Tongataire d'accueil situé à Saint-Martin, la plaine en Loire. Coralie Croissant est avec moi, merci d'être à notre micro aujourd'hui. Vous êtes à l'origine du tiers-lieu Le Touche à Tout à Livrée-la-Touche, un projet lancé il y a 2 ans maintenant. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'événement On se la joue collectif qui aura lieu le 30 septembre. Mais pour commencer et pour que nos auditeuristes comprennent bien, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu, c'est une sacrée question parce qu'effectivement on se pose toujours... Qu'est-ce que ça peut être un tiers-lieu ? Ça peut être plein de choses et c'est plutôt chouette, c'est qu'il n'y a pas une définition toute faite. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire d'un tiers-lieu, c'est que c'est un lieu, c'est un lieu hybride où il y a multi-activités, il y a du partage, il y a de la convivialité, il y a aussi de la rencontre entre les personnes qui peuvent venir dans ces lieux. Ces personnes-là, ça peut être des citoyens, des habitants, des personnes âgées, ça peut être des personnes aussi qui travaillent, des étudiants. On peut trouver... tout le monde peut trouver son, son lieu, enfin son activité, et trouver un lieu de rencontre. Voilà, un tiers-lieu, ça veut dire plein de choses.
Donc c'est un lieu à but social, économique ou encore culturel. On en trouve différents sur notre territoire. Oui. Combien on peut en compter à peu près aujourd'hui ?
Sur le territoire en moyenne, on en a à peu près une dizaine.
Une dizaine. Donc c'est un lieu qui permet d'échanger, de rencontres, comme vous nous le disiez. Les porteurs de projets sont invités à se rendre dans ces lieux pour proposer leurs projets et donc proposer une dynamique au sein de territoires plutôt ruraux et donc proposer aux habitants de ces territoires des nouvelles activités, des nouveaux lieux d'échange. Nous allons revenir donc sur l'événement du 30 septembre, On se la joue collectif. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu du programme de cette journée ?
Alors le programme de On se la joue collectif, c'est donc de 9h30 à 17h. On vous accueille à partir de 9h30. À 10h, on a l'Agora des tiers-lieux. C'est une rencontre entre les tiers-lieux qui seront présents sur cette journée. L'idée, c'est de se rencontrer, d'échanger. Ensuite, à partir de 11h30, on fait des ateliers retour, enfin un atelier retour d'expérience avec comme thématique les tiers-lieux mayennais au service des territoires. Donc c'est vraiment pour expliquer ce que font les tiers-lieux et l'intérêt aussi pour leur territoire. À 12h30, on fait une pause avec un repas partagé. Et à 14h, on repart sur un atelier retour d'expérience avec cette fois-ci comme thème la pérennité des tiers-lieux. On entend parler des tiers-lieux depuis maintenant quelques années et l'idée là, c'est de voir comment on le pérennise, quels sont les constats, quels sont les enjeux pour avoir une pérennité sur les tiers-lieux, pour qu'ils puissent rester sur nos territoires parce qu'ils y font plein de choses et que les citoyens y trouvent leur place de plus en plus.
Il y a peut-être des défis à relever d'ailleurs. C'est pas forcément évident de s'implanter et de pouvoir proposer un projet comme celui-ci sur nos territoires. C'est important de les soutenir.
C'est important de les soutenir parce qu'en fonction du collectif, en fonction du lieu, en fonction de qui on est aussi, dans le sens où on peut être une collectivité, une association, il y a aussi des entreprises. Donc en fonction de notre collectif et du territoire où on est, il faut réussir à s'implanter et se dire nous on a un chouette projet, faut croire en nous et on arrive ici et c'est un avantage pour le territoire où le tiers-lieu s'y implante.
Tous les tiers-lieux d'ailleurs ne sont pas portés de la même manière. Des fois ils sont plutôt soutenus très fortement par les collectivités. Des fois c'est plus une initiative c'est plus l'initiative directement d'une association. Donc tous les tiers-lieux ne vivent pas de la même manière, ne naissent pas de la même manière. Et donc c'est intéressant de s'intéresser à ce qui existe par chez nous et d'aller s'y rendre, d'aller rencontrer les gens et de pouvoir donc soutenir ces lieux-là. Donc nous en étions dans la programmation à 14h, l'atelier retour d'expérience. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend ?
C'est ça. Ensuite, à 15h15, on a une déambulation prévue par nous, le collectif du tiers-lieu. Et là, en fait, on prépare une petite surprise tout fraîche préparée, fraîchement préparée de ce matin. Moi, j'étais en réunion avec Ariane et on a travaillé sur ce temps. L'idée pour nous, c'était de faire connaître un peu notre commune, parce qu'il y a beaucoup de tiers-lieux, mais qui sont dans le nord du département. Et là, on avait envie que les gens viennent jusque dans le sud, voir qu'il fait bon. Mmh. Et qu'on peut aussi avoir un tiers-lieu dynamique. Et l'idée, c'est de faire montrer un peu ce qui s'y passe. C'est un peu aussi dans notre début de création de tiers-lieux, c'est que nous, on a commencé par faire des balades sur la commune pour parler de notre collectif. Et donc là, c'est le petit rappel. On fait une petite balade dans la commune avec des petits ateliers prévus le long de la balade. Voilà, c'est un peu.
Ces ateliers, est-ce que les enfants, ils sont aussi conviés ou est-ce que c'est peut-être plus pour un public adulte ?
Étant donné que, en fait, il va y avoir toute une continuité sur la journée, sur cette déambulation, l'idée, c'est d'avoir un temps informel où les gens vont pouvoir continuer une conversation qu'ils ont commencée le matin ou le midi, ou sur un atelier où on continue de discuter. Et on se dit que les gens vont pouvoir, sur cette déambulation, continuer d'échanger parce que les temps informels, c'est important aussi pour se connaître, et c'est aussi le but de cette journée, de se connaître entre nous, de découvrir des porteurs de projets qui viennent discuter avec d'autres qui ont des projets depuis plus longtemps ou qui sont implantés depuis quelques années, comme le 2-4, eux ça fait longtemps qu'ils existent.
Après en paille.
Après en paille, c'est ça, où a eu lieu la première édition de On se la joue collectif.
Parce qu'on le rappelle, ce qui a lieu donc le 30 septembre, c'est la 3e édition maintenant.
C'est ça.
À 16h30, de 16h30 à 17h, il y a donc une
restitution de ce qui s'est passé dans la journée, de savoir si on avait répondu à des questions et si on fait une prochaine édition, qu'est-ce qu'on y fait, savoir s'il y a d'autres personnes qui veulent intégrer ce collectif de tiers-lieu qui se constitue depuis les 3 années. Et puis voilà, c'est d'avoir aussi une restitution avec une facilitatrice graphique. Donc ça c'est un peu original et c'est plutôt chouette. Nathalie nous suit depuis les 3 éditions, donc ça donne aussi quelque chose de joli à la fin de ces éditions.
Un très beau rendez-vous avec un très beau programme donc le 30 septembre au Touche à Tout, salle des Lavandières, à Livrer la Touche. On parle donc de tiers-lieux, mais vous êtes à l'origine du tiers-lieu le Touche à Tout, à Livrer la Touche, ce tiers-lieu qui existe maintenant depuis combien de temps?
Alors à peu près 2 ans, entre mon idée à moi et après pour moi c'est important que ce soit un projet collectif parce que pour moi un tiers-lieu, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose où on va partager, donc on partage pas tout seul mais on partage avec les gens et ça a commencé par un questionnaire avec des envies, des besoins, voilà, tout un panel de questions, et ensuite il y a eu une réunion publique et là on a eu je sais pas, on était une quinzaine de personnes. Et pour parler un peu de notre collectif, on a commencé par faire des balades. Et de fil en aiguille, le collectif s'est constitué. On est une dizaine dans le collectif. Et on a écrit les statuts de notre association. Donc on a pris le temps d'écrire nos statuts en échangeant sur nos valeurs, sur ce qu'on avait envie sur notre commune de livrer, aussi sur notre territoire, parce qu'on ne se contente pas qu'à Livrer la Touche. Tout le monde est le bienvenu chez nous, évidemment. et on a travaillé, on ne voulait pas copier des statuts d'association. Enfin, voilà, c'était une vraie bien réflexion. Sûr. On a pris le temps d'écrire les choses. C'est quoi le modèle associatif qu'on a envie de suivre? Parce qu'on n'avait pas envie de président, de trésorier et de secrétaire. Donc, on a réfléchi autrement. On teste, puisque l'association, les statuts ont été déposés en mars 2021. Donc le collectif continue de voilà, on essaye des choses, on travaille par commission et ça c'est plutôt chouette. Voilà, un peu dans notre constitution.
D'accord. En quelques mots peut-être, qu'est-ce que vous proposez donc comme projet, comme activité au Touche à Tout?
Alors nous, on propose surtout des choses sur les vacances scolaires avec les enfants, avec des thématiques. Là, ça va être Halloween qui va arriver. Voilà, avec des petits ateliers manuels, des choses comme ça. On fait aussi des ateliers avec des soirées, avec des ados. C'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Donc on se voit un petit peu avant en disant bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est important. Et on a ce petit groupe d'ados aussi qui est très volontaire et qui viennent sur les journées enfants, qui viennent faire le goûter par exemple, ça peut arriver. On propose aussi des ateliers partage de savoir, la couture c'est quelque chose, bon bah voilà, un peu partout ça fonctionne bien, donc à Livrer aussi ça fonctionne bien. Donc on a des gens qui savent pas du tout coudre, d'autres qui viennent. On a eu une mamie qui est venue avec sa petite fille, sa petite fille qui savait coudre, donc c'était plutôt rigolo, elles ont cousu toutes les deux. On a aussi des ateliers autour du jardinage où il y avait des petits quiz, fallait reconnaître les graines. Bah, moi je me trouvais que c'était facile au début, puis finalement
pas si évident que ça.
Donc avec Félie de la Graine qui est sur Livrer, voilà, ça c'est un partage aussi plutôt chouette.
Donc des propositions, donc le rendez-vous du 30 septembre, peut-être plutôt pour des adultes, des porteurs de projets, des gens qui ont une idée peut-être dans un coin de la tête et qui voudraient pouvoir échanger et partager là-dessus. Mais votre tiers-lieu, le Touche à Tout, s'adresse à tout le monde, à des jeunes, des ados.
Voilà, c'est ça. Nous, ça s'adresse à tout le monde. En fin d'année dernière, on a lancé le tarot loisir. Donc là, on a un public un peu plus âgé, où on a des plus jeunes qui sont venus aussi s'essayer aux soirées tarot. Il y a une réunion d'ailleurs vendredi prochain pour relancer cette saison de tarot, parce qu'on joue au tarot l'hiver. Donc voilà, on essaye et on est aussi à l'écoute des habitants. Ça, c'était un collectif qui existait il y a quelques années et qui souhaite se relancer. Et on a fait des soirées où on était une vingtaine pour tâtonner. Donc on se dit qu'on va faire une belle saison, j'espère, autour du tarot. Donc on essaye vraiment de faire des choses intergénérationnelles. On essaye aussi des choses pour les plus petits, les plus grands, les ateliers couture. Enfin voilà, c'est ouvert à tous. Ce qu'on peut faire aussi... on a fait une sortie pendant les vacances famille, donc papy, mamie, les enfants, les petits-enfants. On a été dans un parc et tout le monde a pu profiter de cette journée-là. Bon, il n'a pas fait beau, mais sinon c'était chouette.
donc vraiment des lieux de partage, de rencontres qui seront mis en valeur le 30 septembre 2023 à Livrée-la-Touche dans la salle des Lavandières. Pour s'y inscrire, où est-ce qu'il faut se rendre ?
Alors, on a soit sur la page Facebook du Touche à Tout, vous allez retrouver, il y a un petit lien pour remplir ce questionnaire pour savoir qui vient avec un repas salé, sucré aussi, parce que c'est un repas partagé. Ou alors sur le site de l'APES, vous retrouverez aussi ce lien sur l'APES 53.
Super. Eh bien, écoutez, Coralie, merci. Merci d'avoir été à notre micro aujourd'hui. C'était un plaisir et nous y reviendrons de toute façon sur cet événement. Vous le verrez très, très prochainement. On passe maintenant à une petite pause musicale avant de retrouver Pascal Plisson, le réalisateur du film Sur le chemin, qui présente aujourd'hui son film We Have a Dream. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Eau de Zen, Hardcore.
Je finis par voir des gens. la tête, dans la cantine. Je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, souvent la tête dans la cantine. Je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, souvent la tête dans la cantine. Je dessine le goût amer de ta cyprine. Mes babines, et je finis par voir des gens. Encore, encore, et je finis par voir des gens. Encore, encore, et je finis par voir.
Hier, Pascal Plisson, réalisateur du film Sur le chemin de l'école et César du meilleur film documentaire en 2013, était à Ernée, au cinéma Le Majestic, pour l'avant-première de son nouveau film We Have a Dream. Il a pu présenter aux spectateurs présents l'origine du film, sa rencontre avec les enfants que l'on découvre nous à l'écran et le tournage qui s'est fait donc dans différents pays du monde. La présence de Pascal Plisson sur notre département est exceptionnelle et organisée par Atmosphère 53, car elle permet notamment un grand nombre de scolaires de le rencontrer et d'échanger sur ce film après la projection. Il raconte notamment le regard bienveillant des enfants sur le handicap d'après les échanges qu'ils ont pu avoir. Je pourrais vous parler effectivement longuement de ce film, mais je vous propose plutôt de l'écouter. Donc Pascal Plisson pour We Have a Dream.
Bah, c'est l'histoire de quatre familles, ou cinq familles, qui ont un enfant en situation de handicap et qui se bagarrent pour vivre au milieu des valides, au milieu de gens qui ne sont pas en situation de handicap et qui veulent s'intégrer. C'est une histoire sur l'inclusion des enfants à l'école. C'est une histoire d'amour entre des parents et des enfants. C'est un film d'amour, en fait. Alors l'idée est venue d'un film que j'avais réalisé qui s'appelait Sur le chemin de l'école, en 2013, où dans ce film, j'avais fait la rencontre d'un jeune garçon en Inde qui était handicapé, qui était dans un fauteuil. Et en fait, ses deux petits frères le poussaient le fauteuil pour l'emmener vers l'école. Et j'avais moi-même jamais été confronté vraiment au handicap. Et c'est vrai que cette rencontre m'a vraiment donné un nouveau regard sur le handicap et en découvrant un amour fou entre une maman et un enfant handicapé. Et je m'étais promis un jour de faire un film autour du handicap et de la différence. Et donc ça a mûri. Et j'ai rencontré le directeur France de Handicap International, Xavier Ducrest. Et finalement, on a réussi à se mettre d'accord pour que Handicap cherche les histoires, que me propose les histoires dans les pays où ils travaillent. Et puis à ce moment-là, on a récupéré une dizaine d'histoires et on en a retenu cinq. En fait, comme ce sont des enfants qui sont suivis par Handicap International, ils ont des gens sur place à qui j'ai demandé une fiche, en fait, d'aller les voir déjà pour leur expliquer le projet, voir s'ils acceptaient, en tout cas. Et puis après, ils m'envoyaient déjà une fiche avec un peu la structure familiale, le handicap de l'enfant, le pays, la ville, la situation des parents. En fonction de ça, moi, je récupérais déjà des informations importantes. Et en fonction de ça, ben, on faisait les premiers choix, deuxième choix, de manière à avoir un film qui parle de différents handicaps, à la fois des handicaps de prothèses, des handicaps invisibles, un jeune garçon aveugle et tout ça, donc c'était l'idée. Travailler avec des enfants, moi j'ai l'habitude parce que je le fais sur plein de films, j'adore ça. Après le handicap, c'est pas pareil parce qu'en fait on rentre dans une famille où un enfant est en situation de handicap, c'est déjà difficile pour eux. Et venir s'immiscer dans la vie d'une famille avec un enfant en situation de handicap, il ne faut absolument pas avoir un côté un peu pathos, voyeur. Il faut garder une bonne distance. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film. Et puis en fait, pour que ça marche, il faut qu'on soit vraiment complices et qu'on devienne des amis. Donc moi, j'ai vraiment fait un gros travail en amont sur le film, en allant dans le pays deux, trois fois, les rencontrer, leur expliquer le projet, connaître leur vie de tous les jours, leur quotidien, quel jour ils vont à l'école, quel jour ils font du sport, quel jour ils vont voir des médecins, de manière à construire une histoire autour de leur quotidien. Disons que moi je suis un chef-op et j'aime bien filmer les choses de très près et de très loin. Et c'est vrai qu'on n'a pas hésité à vraiment montrer le handicap tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on n'a pas hésité à montrer un prothésiste qui travaille sur un moignon, faire un moule de moignon pour faire une nouvelle prothèse, de montrer les yeux de ce jeune garçon Charles qui sont blancs, de manière à ce qu'on n'ait aucun tabou par rapport à ça. Mais il fallait à la fois trouver une manière de le filmer qui soit à la fois brutale mais poétique aussi. Donc il fallait trouver de la poésie dans cette histoire. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire en faisant un gros travail sur l'image, sur le cadre, la lumière. Et puis donner confiance aux enfants de manière à ce qu'ils aient confiance sur le fait qu'on ne tourne pas en dérision et qu'on ne se moque pas de leurs différences en fait. Alors la musique c'est toujours un grand débat parce que c'est très compliqué la musique. Surtout c'est des documentaires où on est dans différents pays, dans différentes cultures. Soit on décide de faire une musique en marquant les pays, soit on décide de faire une musique plutôt universelle qui en fait accompagne le film et qui raconte l'histoire comme les images. Il ne faut pas que la musique prenne le pas sur les images, il ne faut pas qu'elle soit trop envahissante. Donc on est parti sur du piano et sur des cordes. À des moments, j'en ai retiré beaucoup d'ailleurs, le compositeur en avait mis partout. Et j'en ai retiré beaucoup aussi. Et parce qu'il y en avait trop et ça nous emmenait dans une fiction. Et on sortait du réel, et si on met trop de musique et on sort du réel et du documentaire, ça ne marche pas. Donc la musique, elle accompagne à des moments précis d'émotion. Ça renforce les émotions. Donc, ça a été une grande discussion avec les musiciens et les producteurs. Le tournage avec l'équipe a duré à peu près 13 jours par enfant. Alors, moi, avant de tourner, j'arrivais moi une semaine avant pour vraiment refaire rediscuter avec eux. Je leur expliquais tout comment on allait travailler. Et après, en fait, moi, j'ai une équipe que je connais bien. Donc, ce sont des gars avec qui je voyage, qui sont habitués à la manière dont je travaille. Et puis, on n'arrive pas en filmant tout de suite. On fait un déjeuner, on se présente, on discute, on monte le matériel. On a laissé les enfants mettre l'œil dans le viseur, on leur a mis du son. Voilà, on leur a fait participer au tournage. Et donc, en fait, très très vite, mis à part le regard caméra, qui est quelque chose qu'on évite quand même, parce que quand c'est vraiment le regard caméra, s'il est franc, ça va. Si c'est un regard caméra compliqué, ça nous gêne. À part ça, ça s'est passé vraiment... J'ai l'avantage de travailler avec des gens qui ne connaissent pas le cinéma, et qui ne connaissent pas la caméra. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour nous. Oui, d'abord, nous, on accompagne les enfants dans leur vie de tous les jours après le film. On ne vient pas filmer et juste on s'en va. On les accompagne dans leur éducation. On a fait des choses pour les familles. On a reconstruit plus ou moins une maison. On a acheté un terrain à une famille pour qu'elle puisse cultiver. On accompagne avec un handicap international les deux jeunes filles qui ont des prothèses jusqu'à ne grandissent plus, jusqu'à leur fin de croissance. Tout ça est prévu, bien sûr. Et puis nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut offrir ce film aux enfants, aux écoles, pour que le regard sur le handicap change. Et que si on arrive à changer le regard des enfants sur le handicap dès l'école, c'est très positif pour nous, quoi. On ne ressort pas indifférent, on ne ressort pas indemne d'un film comme ça, parce qu'on en prend quand même, c'est un film qui marque. Mais c'est un film plein de joie, plein d'émotions, c'est un film très positif. Donc on montre des choses dures, mais finalement les gens en ressortent, ils ont du mal, il leur faut quelques minutes pour en sortir en fait. Surtout les 20 dernières minutes où il y a beaucoup beaucoup d'émotions et ça laisse beaucoup à réfléchir.
Alors évidemment, là maintenant je ne suis pas dans votre salon, dans votre voiture ou dans votre bureau, mais je crois savoir quand même que vous vous dites sans doute mince, j'aurais dû y être. Eh bien sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous puisqu'il sera ce soir au Cinéville de Laval avant la sortie nationale du film le 27 septembre dans plus de 140 salles. Et cette fois il sera en compagnie de Maude, une des enfants du film ainsi que de ses parents. Une occasion de retrouver les sièges en velours rouge de nos cinémas si depuis cette rentrée, vous ne vous l'êtes pas encore permis. C'est donc ce soir à 20h au Cinéville de Laval. Mais pour l'heure, avant de terminer cette émission, j'ai bien envie d'écouter avec vous la Leggenda dei Maccheroni de Dada, une artiste italienne.
Maman, maman, non, je mangio oggi.
Ufica popolare, ma che chi che sta in guacchia ne toma sale, se va un'urita racque sale, fatta non gira, chissà te chiude, non può che raggi voglia di cercate scumbare, te speriamo con mercato fatemi un sessa punto, ma sentiamo che torna e potrà vendermi to sopra, a un Macarune, ya mama, esta cocina está riuna.
picciò fuoco a te te che riccia te giuva nelle cose. Leggenda maledetta e una bella misteriosa. Ti do salve cosa è vero e sfizzoso. Foro per con un spasso viento. Se ti repanne caso sta puttando tempo. Vorrei in persona ti presento. Come so buona che Marione è stata giuva nella nascondita in Bellanzone. Basta se pelle la consule la mezzo cosa. Se sente fortuna te potrà mentre metto un sì. A toi a toi. So che voi che ti sono macchiare una yamma ma è sta che si non stati altri una. Ma lei te una creatura e luce. Se con li porta ma morta so io e cosuca. Chi con le amusca io ne ho la piccio fuoco. Te te che riccia te giuva nelle cose. Leggenda maledetta e una bella misteriosa. Te te salle cosa è vero e sfizzosa. Ti colia musca e una bella piccio fuoco. Te te che riccia te giuva nelle cose. Leggenda maledetta e una bella misteriosa. Te te salle cosa è vero e sfizzosa.
C'était qui le chanteur? Là, faudrait qu'on note, hein, qu'on achète le disque.
Je te l'offrirai si ça te fait plaisir.
C'est déjà la fin de la JT du local, mais l'autre radio vous donne rendez-vous à 19h avec Eldorado. Le principe de l'émission, passer de bons titres de musique pour le simple plaisir de les passer et d'en parler un peu. Vous pourrez y entendre de la musique folk et rock et par extension toute musique populaire née en terre américaine. Et puis à 21h, c'est All Blues qui prend l'antenne et qui nous propose une rétrospective de l'été. Vous venez d'écouter l'agité du local. On se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous. Mais évidemment, surtout, faites le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.